Rénine acheva la lettre, la relut et conclut « Allons, tout est prêt pour le mieux. On ne veut plus continuer nos petites expériences parce que nous en sommes à la 7e et qu'on a peur de la 8e qui, d'après notre pacte, a une signification toute spéciale. On ne veut plus tout en voulant, sans avoir l'air de vouloir. » Il se frotta les mains. Cette lettre lui apportait un témoignage précieux de l'influence que, peu à peu, doucement et patiemment, il avait prise sur la jeune femme. C'était un sentiment assez complexe, où il y avait de l'admiration, une confiance sans bornes, de l'inquiétude parfois, de la crainte et presque de l'effroi, mais de l'amour aussi. Il en avait la conviction. Compagne d'aventure auquel elle participait avec une camaraderie qui excluait toute gêne entre eux, voilà qu'elle avait peur soudain et qu'une sorte de pudeur mêlée de coquetterie la poussait à se dérober. Le soir même, qui était un soir de dimanche, Rénine prenait le train. Et au petit matin, après avoir parcouru en diligence sur un chemin tout blanc de neige, les deux lieues qui séparaient la petite ville de Pompignat, où il descendit, du village de Bassicourt, il apprit que son voyage pourrait avoir quelque utilité. La nuit, on avait entendu 3 coups de feu dans la direction du manoir au puits. « Le dieu de l'amour et du hasard me favorise, » se dit-il. « S'il y a eu conflit entre le mari et l'amour, j'arrive à temps. »«
3 coups de feu, brigadier, je les ai entendus comme je vous vois !»
déclarait un paysan que les gendarmes interrogeaient dans la salle de l'auberge où Rénine était entrée.
« Moi aussi !» dit le garçon de l'auberge. « 3 coups de feu !» Il était peut-être minuit. La neige qui tombait depuis 9 heures avait cessé. Et ça retentit dans la plaine tout à la suite. « Pan, pan, pan !»
5 autres paysans encore témoignèrent. Le brigadier et ses hommes, eux, n'avaient rien entendu, la gendarmerie tournant le dos à la plaine. Mais il survint un valet de ferme et une femme qui se dirent au service de Mathias de Gorne et qui, en congé depuis l'avant-veille, à cause du dimanche, arrivait du manoir où il n'avait pu pénétrer.
« La porte de l'enclos est fermée, monsieur le gendarme !»
fit l'un d'eux.
« C'est la première fois. Et tous les matins, monsieur Mathias va l'ouvrir lui-même sur le coup de 6 heures, en hiver comme en été. Or, voilà qu'il est plus de 8 heures. J'ai appelé, personne. Alors on est venu vous voir. »
« Vous auriez pu vous renseigner chez monsieur de Gorne, père ?»
leur dit le brigadier.
« Il habite sur le chemin. »«
Dame, ma foi oui, mais on n'y a pas pensé. »«
Allons-y. »
2 de ces hommes l'accompagnèrent, ainsi que les paysans et un serrurier que l'on réquisitionna. Rénine se joignit au groupe. Tout de suite, à l'extrémité du village, on passa devant la cour du vieux de Gorne, et Rénine le reconnut à la description qu'Hortense lui en avait faite. Le bonhomme attelait sa voiture. Mis au courant de l'affaire, il s'esclaffa.
« 3 coups de feu ! Pan, pan, pan ! Mais mon cher brigadier, le fusil de Mathias n'a que 2 coups !»«
Et cette porte close ? » ?»«
C'est qu'il dort, le fiston, voilà tout !» Hier soir, il est venu vider une bouteille avec moi, peut-être bien 2, ou même 3. Et ce matin, il fait la grasse matinée avec Nathalie.
Il grimpa sur le siège de son véhicule, une vieille charrette à bâches toute rapiécée, et fit claquer son fouet.
Au revoir la compagnie. C'est pas vos 3 coups de feu qui m'empêcheront d'aller au marché de Pompignat, comme lundi. J'ai 2 veaux sous la bâche qui peuvent plus attendre l'abattoir. « Bien le bonjour, camarade !»
On se remit en route. Rénine s'approcha du brigadier et déclina son nom. « Je suis un ami de mademoiselle Hermeline, du hameau de la Roncière. Et comme il est trop tôt pour me présenter chez elle, je vous demanderai la permission de faire avec vous le détour du manoir. Mademoiselle Hermeline est en relation avec madame de Gorne, et je serai heureux de la tranquilliser, car j'espère bien qu'il n'y a rien eu au manoir, n'est-ce pas ?»
« S'il y a eu quelque chose, nous lirons ça comme sur une carte. Rapport à la neige. »
C'était un homme jeune, sympathique, qui paraissait intelligent et débrouillard. Dès le début, il avait relevé avec beaucoup de clairvoyance des traces de pas que Mathias avait laissées la veille au soir en retournant chez lui. traces qui se mêlèrent bientôt aux empreintes formées dans les deux sens par le domestique et par la fille de ferme. Ils arrivèrent ainsi devant les murs d'un domaine dont le serrurier ouvrit aisément la porte. Désormais, une seule piste s'offrait sur la neige immaculée, celle de Mathias. Et il fut facile de noter que le fils avait dû largement participer aux libations du père, la ligne des pas présentant des courbes brusques qui la faisaient dévier jusqu'aux arbres de l'avenue. 200 mètres plus loin se dressaient les bâtiments lézardés et délabrés du manoir au puits. La porte principale en était ouverte.
« Entrons !»
dit le brigadier. Et dès le seuil franchi, il murmura
« Oh oh, le vieux de Gaulle a eu tort de ne pas venir. On s'est battu ici. »
La grande salle était en désordre. Deux chaises cassées, la table renversée, des éclats de porcelaine et de verre attestaient la violence de la lutte. La grande horloge qui gisait à terre marquait 11h30. Sous la conduite de la fille de ferme, on monta vivement au premier étage. Ni Mathias ni sa femme n'étaient là. Mais la porte de leur chambre avait été défoncée avec un marteau que l'on trouva sous le lit. Rénine et le brigadier redescendirent. La salle communiquait par un couloir avec la cuisine, située en arrière, et qui avait une sortie directe sur un petit enclos pris dans le verger. Au bout de cet enclos, un puits près duquel il fallait nécessairement passer. Or, du seuil de la cuisine jusqu'au puits, la neige, qui n'était pas bien épaisse, avait été balayée de façon irrégulière, comme si l'on avait traîné un corps. Et autour du puits, des traces de piétinement s'enchevêtraient, montrant que la lutte avait dû recommencer à cet endroit. Le brigadier retrouva les empreintes de Mathias et d'autres, des nouvelles, plus élégantes et plus fines. Elle s'en allait, celle-là, droit dans le verger, toute seule. Et 30 mètres plus loin, près d'elle, on ramassa un Browning, qu'un des paysans reconnut pour être semblable à celui que, l'avant-veille, Jérôme Vignal avait sorti dans l'auberge. Le brigadier examina le chargeur. 3 des 7 balles avaient été tirées. Ainsi, le drame se reconstituait peu à peu dans ses grandes lignes. Et le brigadier, qui avait ordonné que l'on se tînt à l'écart et que tout l'emplacement des vestiges fût respecté, revint vers le puits, se pencha, posa quelques questions à la fille de ferme et murmura, tout en se rapprochant de Rénine,
« Cela me paraît assez clair. »
Rénine lui prit le bras. « Parlons sans détour, brigadier. Je connais suffisamment l'affaire, étant, comme je vous l'ai dit, en relation avec Mademoiselle Hermeline, laquelle est une amie de Jérôme Vignal et connaît aussi Madame de Gorne. Est-ce que vous supposez...
« Je ne veux rien supposer. Je constate simplement que quelqu'un est venu hier soir. »
« Par où ? Les seules traces d'une personne venant vers le manoir sont celles de Monsieur de Gorne. »
« C'est que l'autre personne, celle dont les empreintes révèlent des bottines plus élégantes, est arrivée avant la tombée de la neige, c'est-à-dire avant 9h. »
Elle se serait donc cachée dans un coin de la salle, d'où elle aurait guetté le retour de Monsieur de Gorne, lequel est venu après la neige.
Et précisément. Dès l'entrée de Mathias, l'individu a sauté sur lui, il y a eu combat, Mathias s'est sauvé par la cuisine, l'individu l'a poursuivi jusqu'auprès du puits et a tiré 3 coups de revolver.
Et le cadavre ?
Dans le puits !
Rénine protesta.
Oh non, comme vous y allez !
Dame, monsieur, la neige est là qui nous raconte l'histoire. Et la neige nous dit très nettement, après la lutte, après les 3 coups de feu, un seul homme s'est éloigné et a quitté la ferme, un seul. Et les traces de ses pas ne sont pas celles de Mathias de Gaulne. Alors, où se trouve Mathias de Gaulne ?
Mais ce puits, on pourra faire des recherches ?
Ah non, c'est un puits sans fond accessible. Il est connu dans la région et c'est par lui que l'on désigne ce manoir.
Ainsi, vous croyez vraiment ?
Et je le répète, après la tombée de neige, une seule arrivée. Mathias,
un départ, l'étranger.
Et Madame de Gorne, tuée aussi et précipitée comme son mari?
Ah non, enlevée.
Enlevée?
Rappelez-vous la porte de sa chambre, démolie à coups de marteau.
Voyons, voyons, brigadier. Vous affirmez vous-même qu'il n'y a eu qu'un départ, celui de l'étranger.
Et penchez-vous, et examinez les pas de cet homme. Et regardez comme ils sont enfoncés dans la neige, enfoncés au point qu'ils percent jusqu'au sol. Et ce sont les pas d'un homme chargé d'un lourd fardeau. L'étranger a emporté Madame de Gorne sur son épaule.
Il y a donc une sortie dans cette direction?
Ah oui, une petite porte dont la clé ne quittait pas Mathias de Gorne. On lui aura pris cette clé.
C'est une sortie vers la campagne?
Oui, un chemin qui rejoint 1200 mètres la route départementale. Et savez-vous où?
Non.
Au coin même du château.
Le château de Jérôme Vignal?